Aujourd'hui, avec le père Henri Lefer.
Ô vous tous qui passez par le chemin, considérez et voyez s'il est une douleur semblable à la mienne, peut-on lire dans le livre des Lamentations. Toute la vie de Notre-Dame s'est passée en douleur, a pu écrire le pape Saint Pie X. La piété chrétienne honore plus particulièrement sept douleurs de la Vierge Marie qui correspondent à sept événements de la vie de notre Seigneur. Ces sept événements sont comme sept glaives qui ont blessé plus profondément le cœur de Notre-Dame. Nous allons donc aborder ensemble les sept douleurs de Marie. Première douleur, la prophétie du vieillard Siméon. De l'Évangile selon saint Luc au chapitre 2. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Par compassion pour nous, le Seigneur dérobe à notre vue les croix, qui nous attendent afin que s'il faut les porter, nous ne les portions du moins qu'une fois. Il n'eut point cette compassion pour la Sainte Vierge. Il voulait en faire la reine des douleurs, en tout semblable à son fils. Elle a dû donc avoir sans cesse devant les yeux et souffrir continuellement les peines qui l'attendaient. Quand David, au milieu des délices et des grandeurs de la puissance royale, entendit le prophète Nathan lui dire de la part de Dieu, « Le fils qui t'est né mourra de mort. Il ne connut plus de repos. Versant des torrents de larmes, il refusa toute nourriture et coucha sur la terre nue. Ce fut pour Abraham un affreux tourment que les 3 jours qu'il dut passer avec son cher fils Isaac, sachant qu'il allait le perdre. Ce ne fut pas pendant 3 jours, mais pendant 33 années que Marie eut à endurer une peine semblable. Plus augmentait son amour pour Jésus, plus augmentait sa douleur d'avoir à le perdre par une mort si cruelle. Donc plus le temps passait, plus le cœur de Notre-Dame était déchiré. Pourtant, elle n'est point abattue, elle ne perd pas la paix de l'âme, du fond même de son amertume monte en elle la lumière d'une aurore inouïe. Elle est sûre désormais d'être divinement associée à la souffrance de son fils. Elle est sûre qu'il y aura, pour adoucir la cruelle passion de l'enfant, la tendre compassion de la mère. Soutenue par cet espoir sublime, elle attend le glaive profond, qui en même temps que le cœur de son enfant, ouvrira son cœur de mère. Déjà, la parole de Siméon est entrée en elle, violemment comme un glaive. Les sept douleurs sont commencées. L'annonce de Siméon fut comme une mer de douleur qui envahit subitement l'âme de Marie. Elle savait bien que le salut des âmes se ferait par le sacrifice de son fils. Elle y avait donné son consentement dès le jour de l'Annonciation. Mais voilà qu'elle se trouvait subitement devant l'immense combat que la venue de son fils déclencherait sur la terre. Pour elle, qui était si sainte et si pure, ce déferlement du mal et du péché qui lui était annoncé était déjà en soi une souffrance inexprimable. Et cette souffrance rebondissait du fait que c'était son fils qui serait l'enjeu de ce combat, que c'était un combat qui se terminerait par la mort de son fils. Elle eut l'intuition à ce moment que cette présentation de Jésus au temple allait beaucoup plus loin que l'obéissance à l'une des multiples lois de l'Ancien Testament. Son fils était venu en ce lieu pour s'y offrir à l'avance à son père en vue du calvaire. Marie comprit qu'elle était invitée à s'unir à cette oblation de Jésus en acceptant de donner son propre fils à la mort, et à quelle mort? Et ce n'est plus, comme au jour de l'Annonciation, dans l'intimité de la maison de Nazareth, qu'elle était invitée à faire ce don, mais dans la majesté du temple. Notre-Dame fit cette oblation le cœur transpercé de douleur, mais rempli d'un immense amour pour Dieu et pour nous. Offrez donc, ô Mère, votre enfant, et présentez à Dieu le fruit béni de vos entrailles, dit saint Bernard. Offrez pour notre réconciliation l'hostie sainte, agréable à Dieu. Un temps viendra où l'offrande ne se fera plus dans le temple, ni dans les bras de Siméon, mais en dehors de la ville, et sur les bras de la croix, où votre Fils ne sera plus racheté, mais où il rachètera lui-même les autres par son sang. C'est maintenant le sacrifice du matin, et celui-là sera le sacrifice du soir. La Sainte Famille quitta ensuite le temple et retourna dans la maison de Bethléem, mais plus rien n'était comme avant. L'engrenage qui allait conduire à la croix était maintenant commencé, un mystère de mort planait sur la tête de son divin Fils. La vie cachée, ce ne serait pas seulement quelques années à l'écart du monde pour permettre à Jésus de se préparer à sa mission dans le silence et la prière. Ce serait aussi une vie où il faudrait cacher Jésus pour qu'il ne soit surtout pas découvert, car on en voulait à sa vie. À partir de ce moment, chaque action de Marie devint pour elle une souffrance. Il n'y avait pas dans son âme de retraite où l'amertume ne pénétra. Chacun de ses regards sur Jésus, chaque mouvement du divin enfant, chaque parole qu'il prononçait, tout étendait l'amertume qui était en elle. Le cours du temps même était amertume, car elle voyait Gethsémani et le calvaire qui s'approchait. Il fallait pourtant que la vie ordinaire continuât son cours. Il y avait des tâches quotidiennes à continuer d'assumer, aller chercher de l'eau à la fontaine du village, nettoyer la maison, préparer les repas, filer le lin. Il fallait, sans montrer sa douleur, s'occuper de l'enfant, être la joie et l'âme du foyer, comme doit l'être toute mère de famille. Et Notre-Dame n'avait alors que 16 ans environ.